Bonjour, mardi 19 juillet, bienvenue à l'émission Aime l'été, ici Chantal Lavoie. Aujourd'hui encore, des sujets fort intéressants pour apprécier l'été, pour parler de différentes activités et festivals, mais aussi des sujets qui touchent à l'exclusion d'une certaine façon, mais à l'intégration également. Nous pensons aux jeunes qui vivent avec un problème de déficience intellectuelle ou avec le trouble du spectre de l'autisme, et dans cette prochaine heure, nous allons parler aussi de nouvelles pratiques plus à risque dans la communauté gay. Également du cirque aux îles de la Madeleine. Eh ben oui, l'été, il y a des gens ou des organismes qui ne prennent pas de vacances pour s'impliquer dans leur milieu. Voici votre émission Aime l'été. Alors, au menu de cette prochaine heure, nous allons rencontrer le directeur général de l'organisme Réseau, qui s'investit depuis 30 ans auprès de la communauté gay à Montréal pour promouvoir la santé et le mieux-être des hommes gays, cis et trans. Aussi, on s'en va aux îles de la Madeleine, comme je le disais, pour le festival de cirque qui commence bientôt. Également, destination Petite Italie pour Little Fest. Mais d'abord, dans les prochaines minutes, on s'entretient avec des enseignantes en éducation spécialisée pour le projet Cap Café. Merci de vous joindre à nous à Aime l'été.
Dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, oui, tu l'as déjà vu. Il partageait ton cœur dans les matins méchants. Tu riais de lui car il était différent. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire. Dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans les couloirs d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours de masse qui nous casse et nous isole. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui qui passe, mais son nom je sais plus. Qu'est-ce qu'on peut être idiot quand on est plus nombreux? Je l'avoue, le cœur gros, oui, j'ai ri avec eux. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire. Dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans toutes les cours d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous classe et qui nous cogne. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Et on était plusieurs. Il faut en faire valoir pour se sentir meilleur. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, on ne l'a plus jamais vu.
« C'était la chanson « L'effet de masse » chantée par Maëlle, gagnante de la 7e saison de The Voice en France, chanson tirée de son premier album sorti en 2019, une chanson où elle dénonce clairement le harcèlement scolaire, malheureusement beaucoup trop répandu de nos jours. Ce phénomène est effectivement accentué, comme elle le chante, par l'effet de masse. Ben, vous irez voir la vidéo, le clip, enfin, sur la chanson. C'est très, très beau, très touchant. Eh bien, on va s'intéresser maintenant à un projet fort intéressant qui a été mis sur pied par des enseignantes et techniciennes en éducation spécialisée à l'école Cap Jeunesse à Saint-Jérôme. Il s'agit du projet inclusif Cap Café pour les élèves vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble de l'autisme. J'accueille Jessica Bellil et Pascal Coulombe pour nous en parler. Bonjour!
Oui, bonjour!
Alors, vous êtes là toutes les deux!
Oui, il manque Stéphanie Duval qui fait aussi partie du projet, mais ça va être pour une autre fois.
Ben c'est ça, exactement. Ben c'est l'été, l'école est terminée depuis plusieurs semaines déjà, mais vous réfléchissez sans doute déjà à la prochaine année scolaire puisque vous avez plein de projets. Vous travaillez tous les jours avec des élèves vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble de l'autisme. Ce sont des élèves du programme Défi. Parlez-nous d'abord un peu de ce programme.
En fait, le programme Défi veut dire à la base démarche éducative favorisant l'intégration sociale. Donc, c'est des élèves qui ont entre 16 et 21 ans, qui présentent une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Et ce qu'on fait avec ces élèves-là, dans le fond, c'est vraiment de les amener à développer des habiletés socio-professionnelles et des habiletés sociales et à favoriser leur autonomie fonctionnelle. Donc, on souhaite, quand ils vont avoir terminé leur parcours à l'école secondaire, on souhaite qu'ils puissent intégrer le marché du travail, qu'ils puissent vivre en appartement, si c'est possible, ou en appartement privé. Alors, c'est ce qu'on travaille en classe.
C'est ça, donc, le programme Défi qui s'adresse non seulement aux élèves, à leurs parents, mais aussi également aux partenaires de différents secteurs d'intervention, que ce soit santé et services sociaux, développement de la main-d'œuvre et emploi, services publics de transport, enfin, tous ces organismes également qui peuvent éventuellement aussi accueillir plus tard ces élèves.
En fait, c'est ce qu'on souhaite. C'est un petit peu l'enjeu présentement. C'est qu'on ne sait pas nécessairement qui s'occupe de rallier tout ce beau monde-là pour pouvoir regarder le projet de vie tous ensemble de la personne qui a une déficience intellectuelle. Parce que rendu à 21 ans, l'école, à part l'école aux adultes, là, mais c'est plus référé avec le centre intégré santé et services sociaux et des organismes communautaires autour. Mais ça, il faut créer ce petit nid,
ce réseau.
Et puis, donc, c'est un petit peu nous qui faisons ce mandat-là présentement parce que la transition vers la vie active, la TVA, dans notre commission scolaire, n'est pas nécessairement... ça se fait pas tout seul.
Non, c'est ça que j'allais dire, finalement. Ben oui, c'est ça. C'est quand même une tâche très lourde, hein?
Ben, en fait, c'est pour ça que de plus en plus, on essaie d'y aller plus tôt. Parce que là, présentement, les ressources, les organismes qui transigent autour de nos élèves, c'est beaucoup 3 à 4 mois avant la fin de leur parcours, donc ce qui veut dire qu'ils sont rendus à 20 ans ou 21 ans. Alors, c'est beaucoup trop tard. Donc, nous, on aimerait ça vraiment les inclure plus vers les 16, 17 ans, 18 ans. La problématique qui se pose, c'est que c'est des épisodes de service qu'il y a au centre intégré santé et services sociaux. Donc, les épisodes de service, c'est que si la personne va bien dans son ensemble, puis il n'y a pas de problématique ou il n'y a pas de crise, ben il n'y a pas un investissement qui est fait de la part du fils des Laurentides dans ces moments-là. Mm-hmm. Alors, c'est la problématique qui se pose, mais en même temps, on travaille très, très fort. Puis chaque personne, peu importe dans quel organisme qu'il est, là, travaille très, très fort aussi, là. C'est peut-être juste un aspect plus de concertation qui manque et qu'on essaie de créer puis de mettre sur pied, là.
Ouais. Ben, en tout cas, vous faites vraiment un travail admirable. Comment vous voyez, c'est ça, ben, concrètement, là, votre travail auprès d'eux, ça se passe généralement comment au cours de l'année scolaire?
Je vais laisser Jessica répondre à cette question. Ben, notre but premier est de prendre l'élève où est-ce qu'il est rendu, puis essayer de trouver ses forces, puis de créer un environnement alentour de lui, puis de prendre ses forces, puis de lui apprendre des choses, à l'utiliser, comment l'utiliser. Puis même eux, souvent, sont surpris, ils pensent qu'ils ne seraient pas capables de faire une chose, puis finalement, à force de l'essayer, puis d'adapter le matériel matériel pour eux, ben on réussit là, à faire des petits miracles, puis tout le monde est fier.
Oui, c'est ça. Puis il y a toute la relation aussi d'aide entre eux, hein, également, qui se développe.
Oui, exactement. Il y a beaucoup d'entraide entre eux, puis c'est beau à voir tout ça, là. Donc, il y a une belle chimie qui se crée là, dans Cap Café quand chacun a sa tâche, mais en même temps, les tâches se suivent ou on les change aussi de plateau, puis ça, ils aiment ça.
Ouais. Ouais, ben c'est ça, on va en parler de ce projet-là. On n'a pas, évidemment, on n'a pas défini ce que c'était exactement que le projet Cap Café. Ce qui est formidable avec ce projet-là, c'est que c'est un projet initié à la base par les élèves. Dites-nous comment l'idée est venue et dans quel contexte le projet a pris forme. D'abord, c'est un rapport avec le café, hein?
Puis en fait, l'après-midi, souvent après la fin du dîner, là, il y a souvent une détente, puis moi et Pascal travaillons ensemble, on aime beaucoup le café. Donc des fois, durant mon dîner, je revenais avec des cafés du Tim Hortons et des choses comme ça.
Ouais.
Puis Pascal, on s'est dit on va se faire nos petits cafés nous-mêmes pour puis les élèves, en nous voyant faire des cafés, ils ont dit hey, on veut vous aider, ça sent bon et tout ça. Ils ont quand même 18, 21 ans, donc des fois, il y en a qui en boivent aussi. Puis on s'est mis comme ça à avoir l'idée là, d'en fabriquer puis de créer. Puis auprès des enseignants, on est quand même beaucoup d'adultes qui en voient. Donc, c'est comme ça que l'idée est partie des élèves. On fait le café et on en offre à nos collègues.
Eh oui, c'est ça, les collègues de l'école. Donc, chacun prépare le café. Fait quand vous parliez de poste, là, c'est qu'en fait, vous les mettez en groupe, en petits groupes, et chacun, finalement, voit à faire le café, et puis vous mettez ça dans des espèces de thermos, là, ou quelque chose du genre, enfin, un contenant quelconque, et puis ils vont porter ça, effectivement, à quelqu'un dans l'école, là, quelqu'un qui travaille à l'école, quoi, d'autres enseignants.
En fait, oui, exactement. Et puis, ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est qu'on essaie vraiment, quand on parle d'un projet inclusif, c'est qu'on essaie vraiment qu'il puisse représenter le plus concrètement ou le plus fidèlement possible ce qu'ils vont pouvoir retrouver à l'extérieur quand ils vont être dans leur futur travail.
Mm-hmm.
Donc, il y a un site web où les personnes, les clients vont prendre leurs commandes. Par la suite, on retrouve ça dans un tableur où les élèves doivent retranscrire la commande. Quand on parle de station, parce qu'il y a une station pour le sucre, il y a une station pour le sirop d'érable, il y a une station pour les différents types de lait, il y a une station pour la machine espresso parce qu'on fait des cafés latés.
C'est ça.
Aussi des chai latés avec les élèves, c'est des recettes maison qu'on fait. On fait aussi des smoothies. Le mardi, on a deux choix de smoothies. Donc, il y a une station qui va faire une sorte de smoothie, l'autre station va faire...
Eh bien oui, alors on aimerait ça, nous, en avoir. Mais en fait, c'est ça, donc vous voulez aussi avoir un partenariat, et c'est à ça que vous pensez, là, un partenariat avec la FADOC aussi de la région des Laurentides. Alors, les aînés qui pourraient être impliqués aussi, d'autres aînés même qui pourraient, qui vivent d'ailleurs avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, qui pourraient aussi s'intégrer au projet.
Oui, vraiment, on aimerait vraiment ça, la FADOC, beaucoup dans la classe cette année, que ce soit pour des couronnes de Noël, que ce soit pour des journal créatif, assez beaucoup impliquée. Puis on aimerait ça porter là, le projet Cap Café à l'extérieur. Puis aussi en même temps, ça fait aussi un partenariat, ça fait une implication sociale aussi, ça fait transmettre les connaissances de nos élèves aux personnes. Alors oui, on aimerait beaucoup ça. Et si possible aussi, on aimerait ça peut-être développer une coopérative Cap Café. C'est un projet qui pourrait développer dans les futurs années.
C'est ça, un genre de café étudiant, parce que ça se fait dans certaines écoles secondaires même, avoir un petit café étudiant. Alors vraiment pour développer, permettre d'acquérir, de développer des habiletés essentielles à l'autonomie et ainsi diminuer l'incapacité de certaines personnes. Vraiment, c'est une belle façon de faire les choses. Et puis en tout cas, bravo à vous deux pour avoir initié un peu ce projet, même si finalement vos élèves vous ont donné un petit peu l'idée.
Oui. Exactement. Même dernièrement, il y en a un qui nous a proposé de faire des cafés glacés. Donc, on a fait des cafés glacés aussi.
Alors, vraiment beau projet. Merci bien, Jessica et Pascal, d'être venus nous en parler. Alors, et puis, ben, je vous souhaite une bonne année scolaire, mais pas tout de suite, là, quand même. Prenez le temps de vous reposer.
Merci beaucoup, c'est bien gentil.
Au revoir.
Au revoir.
Pourrais-je rire encore de toi, puis remettre de la pâte à dents sur ton visage. Irons-nous crier comme des défoncés sous la pluie sur mon toit dans le vent une dernière fois? On pourrait retourner aux îles de la Madeleine puis vivre avec ces gens qui se foutent du temps. Rendu dans la soixantaine, seras-tu toujours là? La marée haute va nous frapper. Suis-moi dans mon avion papier. Il nous mènera jusqu'à demain. Puis si on crash, je te ramènerai. Au pire, ben, tu sais nager. Nous irons chanter devant des petits vieux qui vont regarder en bas puis faire comme si on n'existait pas. Pourquoi descendre où il y a du monde si tout ce qu'on voit c'est fake puis ça coûte cher? La marée haute va nous frapper.
Avion Papier, Thierry Doucet et Miro Belzile, qui formaient en 2014 le duo Blé. Ces deux jeunes artistes, vidéastes et youtubeurs, remarqués par leur humour, qui avaient amorcé une carrière de chanteur en 2014 avec la sortie d'un premier album, Avion Papier, qui a connu un certain succès. On va justement, nous aussi, filer aux îles de la Madeleine. Le festival Complètement Cirque vient tout juste de se terminer à Montréal. Ça a été une autre édition absolument fabuleuse. La créativité ne semble pas avoir de limite, hein. Mais en ce moment, il y a aussi... Il y aura, enfin, au cours des prochains jours, un autre festival de cirque, celui des îles de la Madeleine. J'en parle avec Suzy Hamel. Bonjour, Suzy Hamel, directrice générale.
Bonjour. La chanson est de mise, hein. Les gens arrivent en avion ou en bateau, mais on s'en vient aux îles de la Madeleine pour
oui.
Le festival de cirque des îles, effectivement.
Ah, je suis jalouse, Suzy. J'aimerais beaucoup être aux îles en ce moment. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde aussi. Alors, une destination fort populaire auprès des Québécois et des touristes en général. Alors, voilà, comme je le disais, le festival Complètement Cirque vient de se terminer et nous en avions parlé justement ici à l'émission. Puis on sait que le Québec foisonne de talents dans ce domaine et attire beaucoup d'artistes d'ailleurs. Je posais la question même à savoir comment se faisait-il qu'il y ait tant de talents ici dans le domaine du cirque? Avez-vous la réponse?
Ben, je pense qu'on a quand même des grands penseurs, des grands développeurs. Notamment, j'ai la chance de travailler avec Gilles Sainte-Croix, qui est un des fondateurs qui est cofondateur du Cirque du Soleil. Donc, Gilles Sainte-Croix, qui est président, dans le fond, et directeur artistique du Festival de Cirque des Îles. Donc, je pense qu'il vient de la bonne école déjà.
Oui, déjà d'emblée, oui.
Il est un peu partout. Éloise, ça a eu ses débuts ici aux îles de la Madeleine. Donc, tu sais, je pense que vraiment on fait vraiment notre place de plus en plus, non seulement au niveau national, mais au niveau international. Les productions circassiennes du Québec, du Canada sont vraiment ont une très belle cote un peu partout.
C'est ça. Et tout le monde, les artistes d'ailleurs, veulent venir chez nous aussi. En passant, vous parliez de Gilles Sainte-Croix. Il a été quand même désigné officier de l'Ordre du Canada, justement, en 2019. Donc, oui. Avec ce festival de cirque des îles, entre autres, alors qu'il a remporté un prix aussi d'excellence en tourisme. Alors, bref, évidemment, là, on va avoir ce beau festival. On en est à notre troisième édition, je crois.
Oui, exactement. Donc, on a eu une année où, pour le mot en C ou en P, peu importe, on a mis une pause comme tout le monde.
C'est ça.
Donc, c'est vraiment, les débuts, ça s'est fait en 2019. Donc, c'est un tout jeune, c'est un bébé festival. Moi, j'aime bien dire que c'est vraiment, il commence ses premiers pas, mais je veux dire, déjà, je pense que il y a beaucoup, beaucoup de troupes qui aimeraient y participer, venir au niveau du festival. Donc, c'est vraiment un festival qui se déroule du 21 au 26 juillet cette année. Et on a un superbe chapiteau. J'étais justement avec Gilles Saint-Croix ce matin qui disait, écoute, on peut quasi la nommer notre cathédrale, tellement c'est vraiment une belle tente. Donc, c'est vraiment un beau grand chapiteau qui accueille 500 personnes où on présente à tous les soirs, dans le fond, deux spectacles. Un spectacle à 16h pour toute la famille avec Octave. Mm-hmm. Et à 20h, c'est la compagnie Philippe Fabrique qui nous présente Blizzard. Donc, attention, tempête de blizzard qui s'en vient sur les îles.
Ouais. D'ailleurs, on peut voir des extraits hein, des spectacles sur votre site. C'est bien sur votre site qu'on peut voir effectivement ces extraits de spectacles. C'est vraiment très beau. Ça nous donne vraiment le goût. C'est fabuleux. Vraiment, parce que le cirque maintenant, en fait, c'est pas juste de l'acrobatie. Hein. C'est plus que ça. C'est du théâtre, de la danse, de la musique. Tout ça réuni. Vraiment, ce sont des artistes de scène complets.
Oui, exactement. Et ça, dans le fond, je vous parlais des spectacles qu'on présente du côté du chapiteau, mais on étend un petit peu nos tentacules un petit peu partout comme une belle pieuvre sur l'archipel. On va présenter également à la Seine, c'est un nouveau lieu de création, l'ancienne église à Afrobert. Mm-hmm. Donc, on présente notre programmation que je dirais plus internationale. C'est une troupe guinéenne, donc ça s'appelle Afrique en cirque. De Studio Calabante.
Ouais.
Donc, on va faire trois soirs du côté de la scène avec cette troupe et c'est vraiment de la force, de la jeunesse. C'est vraiment musique live avec la cora, des percussions. Et on peut parler ici de prouesse acrobatique, puis les gens vont vraiment dire des gros « wow ». des costumes, des chorégraphies vraiment épatantes. C'est vraiment un... Ça va être très, très coloré. Donc, on invite vraiment les gens à découvrir aussi cette troupe-là.
Oui, d'ailleurs, il y a une collaboration, je pense, avec Nuit d'Afrique, si je ne m'abuse.
Non, pas vraiment.
Pas vraiment? Ah, OK, d'accord. Non, parce que je me semblais avoir vu dans la vidéo quelque chose, mais c'était peut-être, ça avait peut-être été présenté.
Oui, peut-être que ça a été capté.
Peut-être
que Calabani ont capté leur vidéo avec
Nuit d'Afrique. J'avais vu, à l'arrière de la scène. D'accord, je comprends.
Ouais, exactement. Et on poursuit également du côté de la place des gens de mer pour les gens qui sont déjà venus aux îles. Quand vous arrivez avec la traverse CTMA au niveau du bateau, ben il y a une place extérieure qui est un superbe beau lieu où on est vraiment au vent et on présente à 17h et à 18h. Donc, on va présenter un combo, si on veut, avec Laurette et Arlette. Mm-hmm. Ça s'appelle Périple. Donc, c'est un duo clownesque musical. Qui met de l'avant vraiment deux superbes musiciennes, vraiment loufoques toutes les deux. Et à 18h, on a une version qui s'appelle Woma, qui est aussi de la troupe guinéenne de Calabante. Okay. Une version un petit peu plus, tu sais, qui est fait vraiment monter pour l'extérieur. Donc, les gens vont pouvoir voir, comme dans une même soirée, un spectacle avec Périple et avec Woma. Back-à-back, l'un après l'autre, tout de suite, donc à 17h et 18h. Donc ça se passe du côté de la place des gens de mer. Donc on a essayé un petit peu de bouger, d'offrir aux gens de voir dans différents lieux.
Ouais,
et
c'est
le dernier lieu, c'est du côté du site de la côte à l'étang du Nord.
Mm-hmm.
Donc lundi soir, on présente le spectacle en intégral de Périple, donc c'est à 19h. Donc ça fait qu'on présente ça sur quatre lieux. On a cinq troupes, dans le fond, cinq spectacles.
Cinq spectacles. 19 représentations,
ouais. Exactement, oui, voilà. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et on espère, cette année, comme là, aujourd'hui, je vous parle, là, c'est de la pluie, mais là, on se croise les doigts, puis on se dit qu'il va faire beau. Mais on invite vraiment les gens à venir vivre la magie, tu sais, du chapiteau. Déjà, moi, juste d'arriver au chapiteau, quand on l'a monté, je me sentais vraiment comme un enfant, là. C'est vraiment wow, là.
C'est ça.
Donc, on va avoir maquillage pour enfants, musique d'animation également avec... David Boudreau, qui est un musicien du Havre, qui vient d'ici des îles, qui va nous faire des chansons guitare et harmonica. Et également Victor Ménard, qui va nous faire trois soirs d'animation. Donc, à tous les soirs du côté du chapiteau, il y a toujours de l'animation, service de bar, popcorn, maquillage pour enfants. Donc, il va y avoir de la vie.
Ah, ben vous nous donnez le goût, vraiment. Alors, c'est pour ça que je vous laisse filer. On vous entendrait, on vous écouterait longtemps comme ça, parce que vraiment, vous nous donnez le goût d'aller aux îles de la Madeleine. Bon, alors, je veux juste... Bon, alors, on revient au fait que c'est 5 spectacles, 19 représentations dans 4 différents lieux. Cap-aux-Meules, sous le Grand Chapiteau, à la Place des Gens de Mer, à Havre-Aubert, à la Seine et à l'Étang du Nord, au site de la Côte. Voilà. En fait, on veut... Je voudrais reparler aussi de cette église-là, parce qu'en fait, c'est une initiative de Jeannot Pinchot. Show, hein, qui veut vraiment faire des îles un véritable pôle culturel aussi avec ce centre-là, avec cette église.
Oui, donc c'est vraiment un tout nouveau lieu de création et de diffusion. Donc nous, on en a discuté auparavant, puis donc on a la chance aussi, on a décidé d'utiliser ce lieu-là. On s'est dit pourquoi pas, il y a un mariage qui est totalement naturel. Donc on s'est dit, on va présenter Afrique antique de ce côté-là. Nos artistes sont logés là également parce qu'il y a tout un pôle aussi d'hébergement qui se développe sur place. Nos équipes techniques sont là, donc on s'est dit, déjà c'est un petit peu compliqué au niveau des îles d'avoir de l'hébergement parce qu'on est assez contingenté. On a fait le tour, donc dès le départ avec Jeannot, on en a discuté, puis on a tout de suite réservé nos trucs, donc on s'est dit, ben on va encourager notre ami Jeannot de ce côté-là. Mm-hmm. Il y a comme déjà aussi un spectacle qui se déroule avec Éloise qui est présenté sur place. Donc, nous, on fait 3 soirs là, sur la série, tout simplement.
Bon, merveilleux. Je voulais aussi juste une petite parenthèse, finalement, parce que le 18 mars dernier, le gouvernement du Québec avait annoncé une entente assurant désormais une protection en cas de lésion professionnelle pour les artistes du cirque lors de leurs entraînements. Alors, ça a été une belle victoire pour les artistes de cirque. C'est important quand même de le souligner, hein?
Oui, oui, oui. Mais moi, j'étais un petit peu dans
C'est
le
pas votre dossier,
dans,
mais...
Ouais. En plus, dans les rouages, mais Gilles aurait pu mieux vous en parler parce que je sais que Gilles a vraiment accompagné justement les artistes dans ces demandes-là. Puis on est très, très contents. Vraiment, c'est un très bon...
Ben, c'est une très bonne chose, hein, parce que oui, il y avait vraiment des problèmes, en fait, de ce côté-là. Et puis, c'est sûr qu'il y a un regroupement national maintenant des arts du cirque, le regroupement en piste. Alors, évidemment, tout le monde a accueilli cette annonce avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis, les artistes qui sont reconnus. En tout cas, chose certaine, vous savez, demain, on parlera du Festival de Baie-Saint-Paul. Il y a encore du cirque de ce côté-là. Il y en a partout!
C'est bien, on aime ça. Les gens sont. C'est une magie qui est tellement universelle. Il n'y a pas de. C'est comme sans frontières. C'est vraiment sans frontières. Donc, puis on a vraiment des artistes exceptionnels. Donc, des gens qui s'entraînent, qui travaillent des numéros des années et des années.
Tout
c'est
à
quand
fait.
Même exceptionnel cette
Absolument.
Discipline-là. Et cette persévérance-là. Donc, je souligne le bon travail de tous ces artistes.
Parfait. Ben, Suzy Hamel, directrice générale du Cirque des Îles, du festival, je vous remercie. À bientôt.
Merci. On vous invite sur notre site Internet à www.festivalescirquedesiles.com. Merci.
Au revoir.
Bye-bye.
Vous écoutez Aime l'été.
Et oui, Aime l'été, merci d'être là avec nous. Et puis, on amorce la deuxième demi-heure de l'émission. Nous parlions de cirque il y a quelques instants, le Festival de cirque des îles de la Madeleine. Ben, je voulais juste revenir sur le fait qu'il y a une exposition permanente ici même à Montréal sur la grande aventure du cirque québécois, l'exposition permanente de la TOHU, qui célèbre la fantastique aventure du cirque au Québec, implantée à Montréal en 1796. Le cirque n'a jamais cessé depuis de se développer pour s'épanouir avec force au milieu des années 1980. Alors voilà, et puis retour on est de retour dans la petite Italie, oui, j'allais dire un autre festival qui s'en vient, Italfest. Restez là.
Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano,
vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao.
Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir e seppellire lassù in montagna.
Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao.
E le genti che passeranno mi diranno che bel fior è questo, il fiore del partigiano.
Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao.
Questo il fiore del partigiano morto per la libertà.
Et Bella Ciao, chant de révolte des résistants italiens de la Seconde Guerre mondiale face aux Allemands et au régime fasciste italien. Chanson bien connue, reprise par bon nombre d'artistes, dont Yves Montand. Et voilà, c'était bien ça, hein, mon cher Mathieu, voilà.
Vous me prenez de court un peu, là.
Oui, c'est ça. Bon, ben, de toute façon, c'était une façon de vous dire bonjour en même
bonjour
temps.
Bonjour à vous.
Alors, chanson qui était interprétée ici par le chanteur italien Manu Pilas, que l'on retrouve dans cette série télé sortie en 2017 sur Netflix. En fait, c'est La Maison de Papier. Oui, c'est ça, parce que là, je l'avais en italien, mais ça s'est envolé. Voilà la version italienne. Bon, bref, on s'en va dans la petite Italie où se déroule chaque été un événement toujours très festif, l'événement Italfest Montréal, connu avant sous le nom de la Semaine italienne. J'en parle avec le directeur de la Société de développement commercial de la Petite Italie, Sam Malo. Bonjour.
Oui, bonjour Chantal, vous allez bien?
Ben oui, très bien. Eh bien oui, on va parler de toutes sortes d'activités, de cinéma en plein air aussi, entre autres. Alors l'Italfest, que l'on connaissait donc sous le nom de la Semaine italienne, pourquoi ce changement de nom?
Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, je dirais là, premièrement, cette année, c'est la 29e édition. Je dirais avec la COVID, évidemment, l'organisation responsable de ce magnifique festival a décidé de se faire un petit renouveau. Donc, c'est tout simplement une question, je vous dirais, de nouveauté. Tout ça, on a revu l'image de marque. Et vraiment, mais je vous dirais, c'est quand même la même authenticité qu'au fil des dernières années.
C'est ça. Enfin, c'est le même festival. Faites-nous justement une petite histoire de cet événement à travers les années. Quand même, ça fait bon nombre d'années, c'est ça, comme vous le disiez, que ça existe. La mission, le point de départ de ce festival, si on veut?
Bien, je dirais, c'est vraiment de faire la promotion de cette cohésion entre les Italo-Canadiens et la communauté montréalaise, évidemment. Donc, c'est vraiment, on célèbre tout ce qui est la culture à l'italienne. Donc, autant au niveau des arts que du cinéma, et en passant également par la mode, évidemment.
Eh oui, c'est ça, la communauté italienne, qui est quand même l'une des plus importantes ici au Québec, à Montréal, j'entends aussi. Alors vraiment, c'est vraiment toute une belle relation que l'on a. Et puis, évidemment, on pense à la Petite Italie, toujours un lieu très dynamique. Son marché, le marché Jean Talon, une destination très prisée de tous. Les restaurants, des endroits évidemment connus, comme on pense au Café Italia, Milano, la Quincaillerie Dante. Enfin, il y a toute une... Il y a toutes sortes de bonnes raisons de s'y rendre.
Ben effectivement, je dirais, c'est vraiment aussi cette promotion qu'on a décidé de faire, je dirais, depuis maintenant 2 ans, c'est-à-dire de se définir comme le quartier gourmand de Montréal. Donc, c'est vraiment dans notre ADN. Je pense que vous venez de nommer déjà de grandes institutions, mais également, ce qu'il faut noter, c'est tout cet aspect au niveau des cafés, les épiceries fines, vous cherchez un ingrédient en particulier. Je dirais, on a ce mélange incroyable qui naît, oui, qui peut se retrouver un peu à Montréal, mais je dirais, chez nous, vous ne vous tromperez pas.
Exactement. Et puis, écoutez, à chaque année, bon, il y avait un événement qui se... Enfin, il y avait toujours... bon, vous terminiez toujours avec une soirée d'opéra, la dernière journée, je pense, ou enfin la dernière fin de semaine. Alors, l'opéra italien, on connaît les grands succès de l'opéra italien. Alors, vous en faisiez pas mal la promotion aussi en même temps.
Oui, ben effectivement, je dirais que c'est ce qui va clore le festival encore cette année.
Ah.
Il y a également le défilé de mode qui est la veille, donc le samedi. Et conséquemment, oui, nous revenons avec ce type de programmation.
Ouais, c'est ça. Et puis, donc, aussi, ben, tout l'été, ben, je pense qu'il y a des films qui sont déjà présentés au Parc Dante, hein?
Oui, c'est député depuis le début du mois de juillet. C'est notre, je dirais, un peu notre événement chouchou, si je peux me permettre. Donc, tous les mercredis à la tombée de la nuit, on invite les gens pour un cinéma en plein air. C'est un magnifique partenariat avec le Festival du film italien de Montréal ainsi que le cinéma Beaubien. Donc, deux magnifiques partenaires avec qui nous avons développé, je dirais, depuis maintenant une douzaine d'années.
Mm-hmm.
Cet événement fort qui, justement, permet aux gens de découvrir vraiment tout la programmation à l'italienne.
C'est ça, tout le répertoire.
Et je tiens à vous dire, particulièrement, je vous invite pour le 24 août, qui sera la célébration de M. Enrico Morricone.
Ah!
Donc, nous aurons un petit concert avant.
Ah, mais ça, c'est merveilleux.
Du film sur sa vie. Monsieur Morricone, qui est malheureusement décédé il y a quelques années, mais
ouais.
Donc c'est quand même une célébration qui vaudra la peine.
Tout à fait. Alors, des comédies, des films historiques, documentaires, plusieurs genres, c'est-à-dire qui seront représentés au cours de cet été. Ça se déroule quand même jusqu'au 31 août. Alors, surveillez la programmation, très important. Et puis, en fait, qu'est-ce qui fait que les Italiens aiment célébrer, aiment tant fêter? Vous savez, on se réunit dans la petite Italie lors du Grand Prix de Montréal, ça c'est bien connu. On suit aussi toujours, bon, quand il y a les événements de soccer, le mondial de soccer, hein, c'est toute une fête.
Je dirais, c'est que les Italiens sont des gens très passionnés dans un premier temps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est également tout cet aspect de la famille. Donc, quand on est reçu dans la petite Italie, cet esprit de familiarité-là est bien présent. Et puis, comme je vous disais, c'est ça aussi également, l'authenticité. Donc, c'est vraiment dans leur ADN. Et je dirais que ça fait en sorte qu'on a un quartier assez dynamique en ce sens.
C'est ça. Et évidemment, on connaît aussi votre intérêt. Je parlais du Grand Prix de Montréal. Bon, les voitures et tout, les Ferrari et compagnie. Alors, vraiment, vous avez aussi un événement de voitures là aussi. Mais bon, je me demande, est-ce que ça, c'est terminé, ça, cet événement-là?
Cet événement est terminé. Je voudrais, Chantal, on a un revu la formule cette année. C'est-à-dire qu'on, dans le cadre du week-end du Grand Prix, il n'y a plus à proprement dit de voitures et tout cela. On fait vraiment plus un festival, le festival Piccola, donc qui est beaucoup plus, je dirais, à caractère familial, évidemment, et qui fait la promotion de la culture. Toutefois, on conserve quand même un événement qui s'appelle l'Autofest et qui s'est malheureusement, on tombe un peu trop tard, malheureusement, qui était il y a deux week-ends et qui est effectivement une exposition de voitures à l'ancienne. Donc, mm-hmm. Oui, amateurs de Ferrari, de Fiat peuvent y trouver leur compte également lors de ce week-end-là.
Bon. Ben, vous, en tant que directeur, justement, de la Société de développement commercial de la Petite Italie, comment voyez-vous l'avenir, justement, de ce quartier? Bon, est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez me dire déjà?
Mais je voudrais que, contrairement à d'autres quartiers à Montréal, on était assez épargnés au niveau de la... Au niveau de la pandémie, on a eu au lieu de fermeture, on a eu beaucoup d'ouvertures de nouveaux commerces. Comme je le disais, les gens se sont trouvés une passion pour tout ce qui est l'aspect culinaire. Donc, considérant que notre mix commercial est composé à peu près à 75% de commerce dans l'alimentation, je dirais qu'on a été franchement épargné par tout cette espèce d'effondrement, si je peux me permettre le mot.
Mm-hmm.
Mais je vous dirais, non, l'avenir est très radieux. Et je vois vraiment, je dirais, au niveau de l'économie, la Ville de Montréal développe de nouveaux programmes. On a une très bonne cohésion au niveau de l'arrondissement, Rosemont, la Petite Patrie également. Donc, tout ce mix-là fait en sorte que je dirais que oui, tout se déroule pour le mieux et que l'avenir est très prometteur également. On
ouais,
s'en vient avec beaucoup de nouveaux projets dès 2023 et on a très hâte de vous
dévoiler. Puis on ne peut pas en avoir un aperçu, bien sûr, non?
Ben, je dirais, sans me commettre trop, on vise à étendre un peu plus le fameux festival Picola. Donc, vraiment de déployer le tout dans l'ensemble de la Petite Salie. Donc, de s'approprier les parcs et de faire différents lieux de diffusion.
Ah, ben c'est bien.
Également,
parce que...
je dirais, un autre magnifique projet qui s'en vient. Dans le cadre des piétonnisations de la ville de Montréal, on travaille main dans la main avec le marché Jean Talon pour déployer des nouveaux espaces ludiques au niveau du marché et permettre aux gens de pouvoir vraiment avoir une expérience client plus diversifiée et leur permettre de prendre le temps de savourer tous les aliments qu'il y a là-bas.
C'est ça. Bon, ben ça, c'est une bonne nouvelle, effectivement. Les gens adorent le quartier. Les gens veulent s'établir même dans le quartier. Enfin, c'est très connu, hein. On veut effectivement, on veut bien souvent vivre dans ce quartier-là, très dynamique et très coloré. Alors, écoutez, merci d'être venu nous parler de Italfest Montréal. Donc, ce festival, en quelque sorte, qui se poursuit tout au long de l'été avec plein de choses, plein d'activités. Alors, on va sur votre site?
Oui, lepetitalie.com, et si vous voulez directement au niveau de la programmation pour le festival, donc c'est leitalfest.com.
Parfait. Et puis on n'oublie pas l'opéra, bien sûr, qui sera présenté.
Effectivement.
Oui, bon, comme à l'habitude.
J'ai bien aimé en passant votre introduction avec Bella Ciao. Je vous en remercie.
C'est bon. Alors, merci bien d'être venu nous en parler, Sam Malo, et bon été dans la Petite Italie.
À vous aussi.
Au revoir.
To know ya, just a kid from South Minnesota, trying to keep my feet off the ground and head up in the clouds. Yes, it's true, I act differently. This apple fell far from the home tree, but I survived the fall. They're always asking me why do I gotta sing high, saying I sound like a girl. Although it's normal to me, it may not seem so manly in a small-minded world. Was prepaid, 'cause I learned to sing from a mermaid. I don't know when and I don't know how, but something starts right now. Oh. Now that I'm big and outgrown my stroller, got a case of vocal bipolar. Don't know which way to turn. Sometimes I'm up, sometimes down, and then I flip it around. I wanna break all the rules. Well, now let me rephrase. I just like singing both ways, so try not to be cruel. Blending with the norm, I hear a voice in my head. It's saying lash out instead. So you better beware. This curly voice doesn't care. I'll sing it all away.
Sing like a boy.
Just my best to be me, and that makes me feel free.
Nick Petera, chanteur américain, enfin j'espère que je dis bien son nom, chanteur américain né en 1986 qui a gagné en popularité après que la présentation de vidéos sur YouTube soit devenue virale en raison de sa voix particulièrement aiguë. Il s'est fait connaître, entre autres, en interprétant à la fois la voix d'Aladin et celle de Jasmine. En même temps, oui, dans une chanson du film Aladin des studios Disney. Voilà. Ben, vous savez, l'été, c'est une période particulièrement chaude et chaude dans tous les sens. Hein. Les activités sont nombreuses et nombreuses aussi les occasions de faire la fête. Et dans la communauté gay, ben, ça ne fait pas exception. Alors, nous allons parler d'un sujet qui touche la communauté gay, mais aussi les hommes gays et bisexuels, les hommes gays, bisexuels, cis et trans. En fait, on va parler d'une nouvelle vague de dépendance à la drogue et au sexe et on en parle avec M. Dumont. En fait, c'est parce qu'on m'avait écrit votre nom au complet parce que j'avais Dumont Blais, mais c'est pas ça.
C'est ça.
C'est Dumont Blais?
Dumont Blais, Alexandre.
Ah, Alexandre Dumont Blais. C'est voilà. Ça, il manquait.
Le prénom.
Il manquait un bout. Voilà. Alors donc, vous êtes de l'organisme Réseau.
Réseau, hein, exact.
C'est ça. Et puis bon, alors, c'est ça, directeur général. Et puis, c'est toujours cet organisme Réseau qui s'est toujours intéressé à la santé, au mieux-être des hommes gays et bisexuels, cis et trans. Alors, vous fêtez vos 30 ans cette année.
Tout à fait. Cette année, on a beaucoup d'activités et d'événements pour souligner les 30 ans de l'organisme. D'ailleurs, merci de nous accueillir pour en parler. Vous l'avez dit, l'été, c'est une période très occupée pour tout le monde, surtout pour nous dans le milieu communautaire. Mm-hmm. Qui dit printemps, dit sortie, dit voir les amis et tout ça. Donc, pour nous, à partir du printemps jusqu'en septembre, c'est l'occasion de souligner les 30 ans. On va clore ça avec un événement festif en septembre, mi-septembre prochain.
D'accord.
Avec près de 200 personnes et tout. Et d'ici là, bien, c'est nos activités régulières de prévention, ITSS, VIH, nos différents programmes qui continuent. Bien sûr, des présences à Fierté Montréal qui commencent le 1er août.
Mais oui, ça s'en vient. Alors, c'est sûr que là aussi, il y aura plein d'activités, plein d'occasions de faire la fête. Alors, c'est important que vous soyez là toujours pour faire également de l'éducation, de la prévention et tout. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez votre mission au départ, là, si on remonte il y a 30 ans, ça répondait à l'époque à un grand besoin. Bon, les besoins qui sont toujours aussi grands, les besoins qui sont changeants aussi?
C'est clair, c'est évolutif. Même au niveau de la santé publique, tous les enjeux évoluent. Il y a 30 ans, Réseau, qui s'appelait d'ailleurs Séro-Zéro à l'époque, pour séropositivité zéro, l'axe au cœur de l'organisme était de cesser les nouveaux cas de sida. À l'époque, on parlait sida et non pas du VIH. À travers les années, à travers les décennies, la mission de Réseau s'est élargie. Donc, en 2010-2011, le nom de l'organisme a changé pour aller à Réseau plutôt que Action 00, parce qu'en 2010, après, dans le fond, 20 ans, deux décennies, les traitements VIH sont arrivés. Il y a beaucoup de travail qui a été fait par rapport à ça et on parle beaucoup plus de VIH, dans le fond, que de SIDA à partir des années 2000 déjà et 2010. Donc, élargissement de la mission pour parler non seulement de santé sexuelle, parce que c'est le cœur de la mission de Réseau à la base, tu sais, prévention ITSS, VIH, mais c'est aussi de voir ça dans un contexte de santé élargie. Ce que des études ont démontré et différents projets de recherche auxquels Réseau a contribué aussi dans les dernières années à différentes universités au Québec, c'est que quand on parle de prévention ITSS, VIH, quand on parle de prise de risque dans sa santé sexuelle, il y a des raisons sous-jacentes à cela et il faut s'attarder aussi à ça. Pas juste à dire d'utiliser des stratégies de prévention comme le condom, la PrEP ou la PPE ou de prendre son traitement VIH si on vit avec le VIH. C'est d'aller plus loin que ça. Quelles sont les raisons derrière? Donc, on parle de santé mentale, on parle de phobie intériorisée, on parle de consommation
de drogue
d'alcool et de drogue dans un contexte de sexualité ou non. Ça amène différents enjeux à ce moment-là de transmission. Quand on a consommé, est-ce qu'on a les capacités pour prendre les meilleures décisions pour soi, pour sa sécurité? Des enjeux de consentement à ce moment-là dans des relations sexuelles. C'est des sujets qui sont discutés partout dans la société, hein, mais qui sont pour nous, qui amènent des couches de spécificité et qui requièrent des services adaptés pour comprendre la dynamique entre ces différentes couches. Donc, effectivement, on est beaucoup dans des programmations comme ça à Réseau depuis quelques années. On a lancé des campagnes sur le consentement entre hommes il y a quelques années, sur la violence entre hommes également.
Des choses qui étaient un peu occultées aussi jusqu'à un certain point auparavant. Ben, on n'y pensait pas, c'est-à-dire qu'il y avait autant de violence. On pensait juste dans des relations hommes-femmes.
Exact. Puis tu sais, notre idée, c'est pas de faire des comparaisons, mais c'est sûr qu'on y arrive à le faire. Mais le sujet entre hommes était très tabou, même encore aujourd'hui. Quand on a sorti la campagne consentement entre hommes, c'était quelques mois après le MeToo. Ça a pris quelques mois avant qu'on sente que le sujet revient dans nos interventions. Je pense que ça a ouvert la porte aux réflexions et nous, on s'est dit comment on peut articuler des messages par rapport à ça. Donc, on a développé une campagne sur le consentement entre hommes, mais effectivement, c'est un sujet qui était très tabou. Puis, la campagne la plus récente qu'on a lancée en fin mars dernier, c'est sur le racisme sexuel. Donc, pour expliquer en quoi une forme de racisme sur les applications mobiles peut avoir des impacts sur la transmission du VIH ou autre ITSS. Et c'est le cas des personnes racisées qui ont de la difficulté à avoir des partenaires en raison d'une forme de racisme qui s'opère, bien, vont être plus enclins à avoir des relations à risque ou c'est aller ça. Vers des partenaires pour avoir des relations, comme tout le monde a besoin de sexualité dans sa vie. Donc, ce racisme qui continue sexuel a des impacts sur la santé, non seulement psychologique, mais aussi sexuel dans ce cas-là. Donc, c'est ce qu'on a voulu démontrer avec cette campagne qu'on a lancée large public.
Il y a comme une forme d'abus, finalement, parce que ces gens-là sont plus vulnérables à cause de ce racisme-là.
Et je reviens aux couches, c'est l'intersectionnalité de différents enjeux, effectivement. Donc, on essaie d'aller, surtout dans les dernières années à réseau, d'aller plus loin dans les différents enjeux simultanés que les communautés peuvent vivre, puis de développer des programmes adapté pour chaque communauté.
Ouais. Et la clientèle qui s'élargit, parce que là, on ne parle pas que des hommes gays. Au niveau des trans, maintenant, c'est vraiment beaucoup plus vaste. Là.
Ben, à Réseau, on avait fait un plan d'inclusion trans il y a déjà quelques années. Et effectivement, on est en réflexion sur la non-binarité dans les services à Réseau. Effectivement, il faut être un peu en raccord avec l'évolution
de la
des
société.
Identités ouais. selon... pour respecter l'identité que les personnes, comment elles se définissent. Mais c'est aussi les communautés, mais aussi les enjeux qui sont multiples et qui ont des intersectionnalités, comme je disais, avec d'autres enjeux. Donc, on travaille beaucoup avec d'autres organismes communautaires aussi, avec plusieurs partenaires pour développer nos programmes, et surtout avec les personnes issues des communautés, pour être certain que le programme qu'on développe ou la campagne qu'on développe, mm-hmm. elle répond vraiment à des besoins.
Aux besoins, oui.
Et qu'il y a un niveau d'acceptabilité sociale aussi dans ce genre de campagne
ou
de programme.
Eh bien, c'est copieux, hein? Puis je vous laisse aller parce que vous connaissez bien votre sujet et c'est fort intéressant. Donc, où en sommes-nous là depuis, depuis 30 ans, là? Bon, maintenant, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Est-ce qu'il y a une ouverture d'abord? Est-ce que les gens sont de plus en plus conscients? Est-ce que, justement, les gens sont conscients de l'importance de se protéger? Comme vous dites, il y a des enjeux très importants, consommation, alcool, drogue et tout et tout. Et là, il y a une nouvelle tendance là, qui se dessine, là, finalement, aussi, la prise de drogue avec le sexe. Mais enfin, il s'agit de drogues qui sont des espèces de suppléments de testostérone ou enfin des hormones. C'est quand même quelque chose.
Bien, je dirais que c'est clair que depuis quelques années... l'enjeu de consommation d'alcool et ou de substances est présent et de plus en plus présent pour toutes sortes de raisons. Il peut y avoir des consommations récréatives qui causent aucun problème chez les personnes. Par contre, il peut y avoir aussi des consommations qui sont plus problématiques. Donc, on est dans la réduction des méfaits à réseau. C'est l'approche, en fait, qui est, à notre avis, gagnante dans le milieu communautaire. C'est pas de dire à une personne « tu dois cesser de consommer », c'est d'accompagner la personne où elle est et puis d'avancer dans un soutien en fonction des besoins de la personne et voir les impacts que la consommation peut avoir sur la vie de la personne et puis y aller petit à petit parce que ça amène toutes sortes d'enjeux. Et ce qu'on constate aussi, c'est au niveau de l'accès à des ressources. Une personne qui a des relations sexuelles avec un homme qui a des relations sexuelles avec d'autres hommes, qui a un enjeu de consommation, qui va dans les ressources de santé publique où tout le monde va, si je peux m'exprimer ainsi.
C'est pas
souvent,
peut-être.
Ce qu'on entend, c'est que c'est pas un endroit nécessairement idéal pour la
adapté
personne.
Pour eux, ouais.
Même si on sait que plusieurs personnes font de leur possible, c'est juste que quand on va préconiser, par exemple, de l'abstinence sexuelle, c'est pas nécessairement une solution pour
non
la
plus.
Personne. Alors, donc, on est beaucoup dans un enjeu aussi d'adapter les ressources puis d'exiger puis revendiquer des ressources peut-être propres à nos communautés pour qu'on puisse avancer plus rapidement puis qu'on n'ait pas en même temps par la bande à finalement éduquer ou s'assurer que ce soit un environnement qui est sécuritaire.
C'est ça.
Donc ça, c'est un gros enjeu aussi dans les dernières années.
Alors, vous vous souciez vraiment de la santé et du mieux-être de tous ces hommes, finalement. Et puis, en même temps, il y avait un petit service que je trouvais fort intéressant. Là, c'est un service de livraison aussi que vous assurez toujours durant l'été? Ou
quoi? La livraison du matériel de prévention, condom ou matériel de consommation, on avait fait ça pendant la COVID parce que, on ne pouvait pas recevoir des personnes. Fait que oui, on avait organisé ça. Il y a d'autres organismes aussi communautaires qui avaient fait preuve de créativité pour continuer à offrir, surtout pour livrer des seringues pour les injections d'hormones pour les personnes trans qui n'avaient pas accès à leur centre de santé. Par contre, là, tout a rouvert et on peut faire du service contact direct. Donc, on continue de distribuer, bien sûr, le matériel de prévention, que ce soit ITSS, VIH ou consommation.
Intéressant. Alexandre Dumont-Blais, directeur général de l'organisme Réseau, qui s'intéresse donc à la santé et au mieux-être des hommes gays et bisexuels, cis et trans. Alors, merci de venir nous en parler parce que c'est important et surtout avec les événements avec l'été. Et puis, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'événements qui s'en viennent. Alors, vos 30 ans qui seront célébrés aussi, il y a des événements qui s'en viennent. On s'en va sur votre site pour avoir tous les détails.
Merci beaucoup.
Merci infiniment. Au revoir et passez un bon été.
Vous aussi.
Au revoir. Vous tous, chers auditeurs, je vous souhaite encore une fois une bonne journée et puis on se retrouve demain, même heure, entre midi et 13h. Soyez-y. Au revoir.